Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Bonjour Caroline.
Et bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Une semaine
bien.
Après, vous êtes habillée pareil que la semaine dernière, dites-moi.
Ouais, et la fois vous prochaine aussi.
Vous n'êtes pas rentrée
aussi.
Chez vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce
Dieu
qu'on dit des gens
sait.
Qui ne se changent pas d'une journée sur l'autre? J'ai ma petite idée.
Et là, pendant 4 semaines, du coup,
ah oui,
je ne vais pas me changer.
Vous êtes en vadrouille. Bon, en studio, en tout cas, merci d'être là dans les studios de Nutri Radio. Et votre invité qui était la semaine dernière, qui nous a dit des choses incroyables concernant l'alimentation des enfants, eh bien, c'est toujours donc Sabrina Lerche. Elle nous a dit non, mais les légumes, bon, ça ne sert à rien pour les enfants. Enfin, plus ou moins, hein, si vous voulez réécouter. Je fais des raccourcis, c'est pour teaser. Comme ça, vous allez réécouter le podcast de cette émission. Donc, Sabrina Lerche, qui est diététicienne, spécialisée pour, dans l'alimentation on va dire infantile pour les 0-3 ans. Bonjour Sabrina.
Bonjour Fabrice.
Merci d'être revenue.
Oui, dans la même tenue aussi.
La même tenue, oui, je vois. Donc, visiblement, vous étiez toutes les deux. Ça, on avance.
Ça, on avance dans l'enquête.
Dans l'enquête. L'enquête. Alors, Sabrina, 3 enfants, vous êtes toutes maigres.
C'est quoi cette réflexion? Ça n'a aucun sens. Vous avez eu 3 enfants, bizarre, vous êtes toutes maigres.
Moi, par exemple, j'ai 2 enfants, vous voyez, j'ai pris un peu.
C'est parce que je mange pas de légumes.
Non, vous êtes toute mince, je veux dire.
C'est ça, le secret. Non,
vous êtes toute mince. Alors, Caroline me dit souvent en off, parfois t'es maladroit.
Mais tu es très maladroit.
Et là, peut-être que le mot, pardon. Non, mais je veux dire, ouais, toute mince, sous-vêtes, 3 enfants, moi j'ai l'impression que c'est... Voilà, je sais pas.
Ben ça, tu vois, c'est ta croyance.
Ça, c'est ma croyance. Générique de fin. Ça ne peut pas démarrer comme ça. On va refaire la trop de cette émission.
C'est n'importe quoi.
Caroline Derumini.
On l'a refait.
Sur Nutri Radio.
Bonjour Caroline.
Et bonjour Fabrice.
Caroline Derumini sur Nutri Radio.
T'as pris un peu de poids.
Retour. Ah oui, je sais, depuis la semaine dernière, j'ai mangé un merveilleux dans une boulangerie. J'aurais pas dû, je regrette encore. Et Sabrina, votre invitée, Sabrina Lerche, qui est là avec nous encore pour cette deuxième émission consacrée à l'alimentation, l'impact psychologique de l'alimentation pour les enfants. C'est votre spécialité. Vous êtes diététicienne, nutritionniste pour les enfants 0-3 ans, c'est ça?
Oui, voilà, 0-3 ans, en tout cas la toute petite enfance, oui.
Voilà, et donc, qu'est-ce que vous êtes? Non, pardon.
C'est
en boucle les trucs. Bon, mais non, écoutez, on parle de l'alimentation.
Là, on va perdre les auditeurs.
Mais non, d'ailleurs, il faudrait en gagner pour les perdre, Caroline.
C'est vrai.
Je plaisante. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet de ces émissions, parce que ces petites conversations avant rentrer dans le vif du sujet, bon, ça permet d'alléger parfois sur des sujets qui sont sérieux, souvent, avec Caroline Derumini. Et là, le lien entre les émotions, l'alimentation et la psychologie, on a un peu moins parlé de ça la semaine dernière. Peut-être que vous allez plus vouloir rentrer dans le détail aujourd'hui.
Exactement. Dans la sensation justement de plaisir qu'on vient rechercher et ce que je disais la semaine dernière sur le fait que, la nourriture va être associée à de l'amour, va être associée à de l'attention et va même être associée à de la mort.
Alors,
dans le sens
juste,
où.
Pardon, je me permets. Caroline Derumini.
Il faut que je regarde comme ça.
Non, c'est pas ça. Caroline Derumini, elle continue l'émission comme si c'était la suite de la conversation, comme ça. Elle continue.
Ben oui.
Recontextualiser pour les auditeurs quand même.
Ben, il faut qu'ils réécoutent le podcast de
la semaine dernière. Mais non, mais vous accueillez tous ceux qui rentrent dans cette maison de la radio. C'est les auditeurs s'envolent.
Je vais faire une redite alors.
Non, mais là, vous continuez la conversation comme si c'était normal, comme si vous étiez dans le prolongement du truc. Non, recontextualisez un petit peu quand même, s'il vous plaît. Pensez à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour.
C'est pas ton boulot, ça?
Mais je l'ai fait un petit peu, mais vous faites beaucoup
D'accord.
mieux que moi.
Bonjour.
Voilà.
Non, donc je disais la semaine dernière, on a commencé l'émission comme ça, comme à la naissance, le bébé naît immature et va associer la nourriture à l'acte d'amour de on vient me prendre et me nourrir et donc je ne vais pas mourir. Donc on va vraiment avoir l'analogie des trois mots, alimentation, amour et mort. Si bien que généralement, quand on traverse un moment difficile dans sa vie, une séparation ou un deuil, on va soit énormément manger, le litre de glace devant Netflix, ou alors on va pas du tout manger et se restreindre complètement parce qu'on va être dans une dépression. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu plus?
Oui, alors tout à fait. Effectivement, on reste dans l'enfant, hein, je précise. Il n'y a pas de séparation chez les petits, encore que.
Ah bah si.
Il
y a la dépression aussi.
Et la séparation, la peur, justement, l'angoisse de séparation des huit mois.
Mois.
On est en plein dedans. Où effectivement, on peut voir, d'ailleurs, merci, parce que je n'avais pas forcément toujours vu sous cet angle-là, des enfants à cette époque-là qui vont tendance à faire des petites régressions, qui vont exiger que les parents les nourrissent. Alors, je parle de ça parce qu'il y a deux. On va dire, il y a plutôt, pas vraiment deux écoles, mais il y a plus ou moins deux façons d'alimenter les enfants. On parle aussi de cette fameuse diversification menée par l'enfant, c'est un peu une de mes spécialités. Et donc l'enfant se nourrit par lui-même, on a un petit peu évoqué la chose la semaine dernière effectivement. Le fait de laisser l'enfant manger un petit peu ce qu'il veut, comme il veut, il s'avère qu'effectivement, à cette période-là, vers 8 mois, on a beaucoup d'enfants qui vont avoir tendance à pas forcément manger moins, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a l'apprentissage du déplacement, il y a les poussées dentaires qui vont aussi se mêler à tout ça.
Et c'est multifactoriel, c'est pas que l'angoisse du huitième mois, non. Mais ça vient additionner
tout à fait.
La consommation et la manière de consommer.
Et c'est précisément dans ces zones-là aussi où j'ai beaucoup de parents qui s'inquiètent. Mon enfant ne mange pas, ou au contraire, il gloutonne, il gobe, il ne fait plus comme avant. Et ça vient encore plus renforcer l'angoisse des parents justement sur cette période-là où ils ne savent plus quoi faire. C'est une période aussi où ils ne voient pas forcément le médecin, puisqu'il y a un gap entre les 6 mois et les 9 mois où le parent n'a pas obligation de voir le pédiatre ou le médecin, et où effectivement... il n'y a pas de réponse à ça. Donc la meilleure chose à faire, mais encore une fois, c'est souvent au cas par cas, mais la meilleure chose à faire, c'est de suivre l'enfant, d'accepter la régression, de l'accompagner dans cette régression, lui montrer qu'on est là quoi qu'il arrive, qu'il mange peu ou plus ou autre. Et généralement, la solution vient d'emblée, alors je précise toujours hors pathologie, pas de problème d'oralité ou autre, généralement au bout de quelques jours ça se décante et on retrouve bien évidemment un bébé qui va remanger comme il mangeait au début.
Alors la semaine dernière, on parlait justement du fait qu'un enfant va réagir de manière plus intelligente dans le sens où plus rapide, c'est aussi parce qu'il n'a pas à ce moment-là dans ton développement psycho-affectif le temps de s'attarder. Donc il va mettre de côté et c'est des fois des choses qui ressortiront plus tard à l'adolescence ou à sa construction d'adulte. Et ça c'est important aussi de le dire, c'est pas forcément que l'enfant va, de par sa plasticité cérébrale, dépasser cette étape. On est vraiment aussi dans un élément où il peut le mettre de côté pour le régler plus tard. Et c'est pour ça qu'après en séance, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment est-ce qu'il a été accompagné de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, sur les éléments en fait, dans son mouvement de développement psycho-affectif, pour venir étayer la connaissance de soi, tout simplement, sur les émotions que je te disais, que l'on peut travailler dans une séparation, dans un deuil ou autre. Tu parlais tout à l'heure de... la prudence qu'il faut faire à nourrir les émotions par l'adulte, ça me fait penser aussi aux récompenses, ou alors quand on va chez les grands-parents, fait plaisir à papy, mamie, et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans ce côté nourrir les émotions?
Oui, alors complètement, c'est vrai qu'il y a souvent même un conflit de génération où j'ai les parents qui veulent effectivement bien faire, ou en tout cas surtout ne pas faire comme eux, ils ont connu, les grands-parents qui pensent que s'alimenter, en tout cas donner des récompenses type sucre, chocolat ou autre, alors je dis pas que c'est mal, mais bon, pas forcément de tout petit, on a vraiment cette impression que l'enfant, s'il ne mange pas tel ou tel aliment, sera privé. On va pas le priver de chocolat, on va pas le priver de
dessert.
Choses, voilà, priver de dessert aussi, effectivement.
Si tu finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert.
Exactement.
Alors que ça n'a absolument aucun rapport dans l'alimentation.
Aucun rapport. Et ce sont beaucoup de parents qui ont vécu, je pense, ces situations-là, qui aussi reviennent avec cette peur, peut-être même inconsciente, de reproduire ce conflit,
ces schémas.
Voilà, ils viennent s'enquérir d'une réponse, ils viennent pour être rassurés de comment il faut faire. Et encore une fois, il n'y a pas 36 000 choses à faire, c'est vraiment s'écouter et puis laisser encore une fois l'enfant faire. Il ne mangera pas forcément plus de sucré si on laisse tout à portée de main que de salé ou qu'autre chose. Voilà, donc il n'y a pas d'aliment récompense. Et pour revenir aussi sur pour faire rebond sur ce qu'on disait la semaine dernière, un enfant peut très bien manger un fruit tout simple avec du plaisir. On peut très bien donner des aliments un peu plus sains avec plaisir que du chocolat ou du sucre. Voilà,
On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
La suite de cette émission avec toujours votre invitée Caroline Sabrina Lerche, qui est diététicienne nutritionniste spécialisée donc dans la nutrition, la diététique, l'alimentation infantile. Et quand on dit enfant, c'est plutôt les 0 à 3 ans. On voit, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir, cette alimentation, pour le reste de nos vies, finalement, et nous, ce qu'on reproduit avec nos enfants.
Et complètement.
C'est vrai, en plus, ça vient d'où cette expression, si tu finis pas ton assiette, t'as pas de dessert?
Du Nord, je crois.
C'est vrai, bah. Non, mais c'est vrai qu'on. Est... Mais après, on sait que le dessert, c'est.
Alors, je pense que c'était par rapport au gaspillage, déjà, et que, de manière culturelle, c'est vrai que, eh bien, fut un temps, il était plus difficile aussi d'avoir de l'argent pour se nourrir. Pour,
on y arrive, vous inquiétez pas. Aujourd'hui aussi, c'est compliqué.
Il faut travailler pour se nourrir, pour avoir, le côté agriculteur aussi. On suait de son front pour faire pousser les patates. Et je pense que c'était une notion aussi de respect sur le fait de finir son assiette, parce que eh bien, ça coûte, mais pas que en termes d'argent, ça coûte en termes d'énergie et de temps, et que c'était pour respecter aussi. Alors
ça,
moi, j'ai tendance, j'ai tendance à dire à mes enfants que c'est pas grave s'il ne finit pas. Par contre, la viande et le poisson, il le finit parce que c'est un animal mort. C'est ma manière...
Boum.
Ouais, mais c'est, on respecte la vie.
J'ai envie d'avoir ça, parce que dire à son enfant, bouffe, finis ça, parce que c'est un animal mort, je suis pas sûr qu'au niveau psychologique...
Non, je lui dis que c'est un animal qui a donné sa vie.
Attention,
pour la nourrir.
Mange
le
ça,
nourrir.
Rappelle-toi, parce qu'avant c'était la petite famille lapin, qui était très heureuse, donc tu as fini la maman lapin. Sinon,
oui, c'est de respecter l'animal que de terminer, parce qu'il est mort pour la nourrir.
D'accord.
Non, voilà. On a... Alors je dis pas c'est un animal mort, tu le manges.
Si, si, vous venez de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina?
Moi, j'ai aucun. Voilà, je ne me positionne pas sur les régimes alimentaires qui existent. Chacun.
Non, cette petite phrase là, quelqu'un me regarde, voilà, vous dit, je dis à mes enfants, finis ton assiette parce que c'est un animal mort.
Non, j'ai pas dit ça. Enfin, si, j'ai peut-être dit ça, mais c'est pas comme ça que je le dis.
Oui, c'est pas vous l'avez dit.
Non, il y a pas de problème. Chacun.
Encore une fois,
voilà,
je pense que
c'est avec mon propre trauma.
Caroline parle de son de l'animal mort. Il y a aucun.
Non, mais vous avez un avis, c'est horrible, en vrai.
Un avis. Mais écoutez, si vous voulez, il y a pas de végétarisme chez moi, mes enfants sont libres de choisir ce qu'ils veulent manger ou pas, et j'ai même ma petite dernière qui en pleurant mange sa viande en me disant je veux pas tuer les animaux mais c'est tellement bon la viande. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça?
Mais est-ce que vous diriez à vos enfants par exemple, finis ton assiette parce que là c'est un animal mort que t'as dans l'assiette?
Mais encore une fois, c'est difficile de vous répondre et de vous dire absolument oui, faites comme ça, c'est le but. Non, le plus important c'est que l'enfant soit libre et le sens. Oui.
Merci.
En tout cas, merci.
Je ne choque pas mon enfant quand
non,
je dis
j'ai
ça,
déjà,
je
bah, j'explique à mes enfants que ce qu'ils avaient dans l'assiette pouvait effectivement être un animal mort. Et je ne dis pas qu'on va faire la visite des boucheries non plus pour leur montrer ce qui se passe.
Ouais,
exactement. Mais bon, quand on passe devant les poulets, avec encore la tête, moi je leur explique que oui, c'est ce que l'on mange.
Oui, vous regardez les trois petits cochons à la télé et puis après, tu vois, ah, regarde, ici.
Comment faire des végétariens et des véganes, c'est ça?
Non, je sais pas. En tout cas, Caroline, merci.
Je rebondis avant la pause quand Sabrina disait que on pouvait aussi bien déguster un bon fruit qu'un bonbon. Alors moi, j'ai une technique à la maison qui marche d'enfer. C'est que les pommes, on fait des chips de pommes. C'est qu'on les coupe en toutes petites rondelles. Et je dis, qui veut des chips de pommes? Et le mot chips, en fait, ils sont fans. Donc je les tchac-tchac. C'est pas
ça,
mal,
c'est ça. Pas mal. Là, on est pas mal.
Et voilà. Ah. Et du coup, on fait des bols de chips de pommes en apéro devant la télé.
Ça, c'est topissime. Bon. Alors, t'as un truc aussi, une astuce. Je vais vous donner l'astuce, la sucette de pommes. On coupe les pommes en quartier ou plus, hein, parce qu'un quartier, c'est forcément en quatre, mais on peut mettre en huitième même. Et on pique la tranche de pomme, on la trempe dans un peu de miel.
Ou de yaourt.
Et bon, yaourt, mais alors, le miel, c'est pratique parce que ça colle bien, si tu veux. Et après, on peut le rouler dans des copeaux de noix de coco, dans la poudre de noisette. Et alors là, je vous assure, c'est topissime. J'avais fait ça pour l'anniversaire de ma grande une fois. Mon joli gâteau Reine des Neiges, avec un joli glaçage bleu tellement naturel, était resté intact. Par contre, elles m'ont liquidé le kilo de pommes.
Ah, ça c'est pas mal pour faire manger des fruits aux enfants qui n'ont pas une approche peut-être aussi facile que ça.
Tout à fait.
Très bien. Voilà, merci Sabrina. Il y a pas de pause, hein, allez-y Caroline.
Donc on était sur nourrir les émotions.
Oui, tout à fait. Donc, on parlait effectivement de tout ça. Alors, le positionnement des grands-parents ou effectivement le conflit des générations, il y a ça qui est très important. Toi, c'est ce que j'entends beaucoup, effectivement, en consultation. Qu'est-ce que j'entends aussi, aussi très souvent, c'est voilà, bon, bah, c'était cet aspect aussi de ne pas le priver. On a vraiment cette impression parfois que le fait de ne pas donner tout d'emblée à l'enfant, bon, je parle vraiment sur ce point. Je ne suis pas anti-sucre, hein, mais bon, les chocolats ou autres. J'ai la question qui revient assez fréquemment. Est-ce que je peux donner du chocolat à mes enfants, voilà, très jeunes ? Bon, le but, c'est dans un premier temps d'essayer effectivement de diversifier au maximum avant d'amener le chocolat. Mais quand on a de la famille qui insiste impérativement pour apporter ce type d'aliment pour faire plaisir, savoir à qui on fait plaisir. Est-ce que l'on fait plaisir à l'adulte ou est-ce que l'on fait plaisir à l'enfant ? Parce que la question qu'il faut se poser aussi, c'est si l'enfant n'a jamais goûté cet aliment, est-ce qu'il sait concrètement ce qu'il rate ? Dire si on aime le chocolat, on peut dire qu'il rate, pas vraiment. Et on peut aller beaucoup plus loin. Parce que moi, j'aime bien aussi des fois les images, pas forcément trash, mais j'aime bien aller loin et dire à cette même famille ok, d'accord, mais admettons, papy aime bien boire un verre de whisky. Est-ce qu'il va proposer à son petit-fils de 1 an un verre de whisky? Après tout, ah, si c'est du bon whisky, peut-être que l'enfant rate quelque chose. Et là, on va me dire tout de suite, ah oui, mais non, parce que c'est de l'alcool. Très bien, mais qu'est-ce qui vous dit que finalement, ce chocolat n'est pas forcément nocif ? Dans le chocolat, il y a de la caféine, il y a des métaux lourds. Sur un petit enfant, ça peut avoir un sacré impact. Donc, il y a certains aliments qui ne sont pas nécessaires, on va dire, à la croissance, etc. Mais aussi, c'est pareil, on peut, encore une fois, faire plaisir d'une autre façon. Et on a aussi cette notion de « je fais plaisir parce que je t'aime et je veux aussi que tu m'aimes en retour ». Et ça, c'est vrai que ça peut, encore une fois, engendrer des problèmes, je pense, plus tard, un rapport à la nourriture. Et là, c'est plus ton travail, ta vision, ce rapport à la nourriture qui va être un peu biaisé. Je mange pour guérir ou pour soigner mes émotions. Je me remplis d'amour parce que, bah, si on parle même d'une séparation, je n'ai plus...
On compense.
Cette personne et on compense. Alors je me remplis d'amour comme on m'a plus jeune rempli d'amour avec l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose.
Et ça démarre de cette analogie amour, nourriture et mort. C'est vraiment ce triptyque. Hein.
Ouais.
C'est très intéressant de le voir ainsi. Ce qui va être aussi percutant, c'est la peur des parents que l'enfant s'étouffe. Quand on fait de la diversification alimentaire, surtout meulée par l'enfant, la DME, mm-hmm. Beaucoup de parents ont vraiment la peur et du coup transmettent la peur. Et c'est dans cette transmission que l'enfant va se bloquer. Et après, on peut même aller voir jusqu'à une orthophoniste par rapport au problème de déglutition ou à ne plus vouloir avoir dans la bouche une sensation d'un certain type d'aliment. Est-ce que ça t'est...
Ouais, je suis confrontée quasiment au quotidien aussi, effectivement. Quand je reçois, pareil, hein, je reçois beaucoup de mamans, hein, désolé les papas, mais c'est vrai que c'est souvent les mamans que j'ai en consultation quand même. Et on sent qu'il y a cette peur, cette angoisse du morceau, la peur de l'étouffement. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, beaucoup de parents refusent ou en tout cas ont cette peur de donner un gros morceau de légumes bien bien fondant, hein, qui s'écrase très facilement entre le pouce et l'index. Et à contrario, ce sont des familles où ils vont donner, ou en tout cas laisser les grands-parents donner des boudoirs, je suis désolée, les grands-parents,
hein, aussi,
et le fameux quignon de pain pour faire les dents, voilà, ça c'est encore une transmission erroné, le fameux quignon de pain. Et où est le... Bah là, il y a un gros paradoxe. Le fait de donner un quignon de pain, quelque chose de dur, quand on sait que la mie fraîche peut, avec la salive, s'amalgamer et former une sorte de boule caoutchouteuse comme du chewing-gum, alors que la carotte va fondre littéralement, même la courgette va fondre littéralement dans la bouche, où est le danger réel ici? Et voilà, le but, bon, bah, c'est ici, bien évidemment, de rassurer les parents, de leur dire que, bon, il y a moins de risques, finalement, à commencer par du légumes que par du quignon de pain, mais c'est surtout cette peur, cette angoisse que l'on doit travailler. Et je remarque effectivement que lorsqu'il y a au moins un des deux parents qui a peur du morceau, alors que l'enfant semble prêt, hein, il est là, il s'intéresse au contenu de l'assiette, il boude même parfois les purées au point de dire moi je suis prêt, j'ai envie, j'ai besoin de cette autonomie. C'est les parents qui freinent, et ils freinent tellement fort que parfois on loupe un petit peu cette opportunité, et on se retrouve avec des enfants qui vont manger un peu sans forcément plaisir, qui vont se retrouver un petit peu, je trouve, dans la contrainte, à savoir ils laissent tomber, ils lâchent les bras le long du corps et se contentent uniquement d'ouvrir la bouche et d'avoir la béquille. Alors les parents sont rassurés parce qu'ils nourrissent eux-mêmes.
Symboliquement, ça vient aussi.
Exactement, ouais, je me doute bien. Et puis,
beaucoup de choses.
C'est surtout, c'est vraiment, je me laisse faire. Voilà, tu sais mieux que moi, et je me laisse faire. Et c'est un peu comme quand on impose des grammages, finalement, en alimentation, imposer des grammages, alors que c'est l'enfant seul qui sait la place qui lui reste dans l'estomac. C'est là où on est vraiment dans quelque chose qui est, pour moi, à mon sens, un peu idiot, un peu dommage.
Et puis on peut avoir une satiété de salé, on peut avoir une satiété de
sucré,
du type d'aliment, oui. En disant non, c'est pas que je finis pas mon assiette et que j'aurai pas de dessert. Là, les pâtes, je n'en veux plus, ou les légumes, je n'en veux plus, je veux passer à un autre goût. Et la satiété, il faut aussi en tenir compte.
Exactement.
Naturel, hein, je parle de la satiété dans le sens où l'enfant va de lui-même savoir que là, cet aliment-là, c'est pas qu'il a plus faim, c'est qu'il ne veut plus de ça, il veut passer à autre chose.
Exactement.
Avant de terminer cette émission, je voudrais vous poser une question. Vous savez, sur les 0-3 ans, quand on donne à manger à son enfant, d'après mes souvenirs, il y a aussi ce moment où vous donnez à manger et l'enfant, il fait comme s'il vomissait. Ça vous est jamais arrivé, ça?
Aussi. Si. Mais même quand ma grande avait 14 ans, elle faisait semblant de vomir son avocat parce que je lui disais qu'il fallait manger de l'avocat.
Je me suis loupée au tout début.
Hein. Ouh là là. Non. Non. Et j'étais dans ce côté où il faut finir, sinon tu sortiras
pas
de table.
Mais c'est quoi, pareil.
J'étais jeune, j'avais 28 ans.
Team, il faut finir, mais après on apprend aussi. Je pense, encore temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on a, si les parents nous écoutent qui ont des enfants entre 0 et 3 ans, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a ce moment où on a l'impression que mince, il a pas envie de ce que je lui ai fait, il aime pas, pourtant c'est bon, etc.
Arrête ton cinéma.
Non, 3 ans, arrête ton cinéma. Ok, Caroline, merci.
J'ai des acteurs à la maison, des artistes.
Alors après, ça va dépendre effectivement de l'âge. Chez les tout-petits, pareil, aux alentours de un peu avant un an, ce haut-le-cœur peut venir du fait qu'il y a nécessité de faire reculer un petit peu ce fameux réflexe de déglutition pour permettre aux aliments d'être consommés de façon moins lisse. Hein. On part du lait, puis ensuite on enchaîne sur une purée très lisse, et puis etc. On augmente un petit peu la granulosité des aliments. Là, on est vraiment sur un bébé qui a besoin de faire reculer. Par contre, plus tard, lorsque l'enfant refuse, eh bien, il s'oppose un petit peu. Hein. Il fait un petit peu le « non, j'en voudrais pas » et voilà, regarde, je suis même prêt à recracher parce que voilà, donc faut pas le prendre pour soi. C'est pas forcément son alimentation qui a été mal faite pas vraiment de technique, on va pas forcer l'enfant à manger ou à remanger, on va... Ouais. Non, le but, c'est ok, j'ai compris.
Caroline de Rimini, elle, je pense qu'elle est partie, elle rigole là, mais je pense que elle, sa technique, c'était tu vomis, tu manges.
Non, faut pas exagérer du tout. Ça, c'était la technique de mon père, tu vois, suis adoucie quand même.
Quand même, on travaille.
Il y a une transmission.
Avant, on peut se dire qu'il n'y avait
pas... Ne croyez pas tout ce qui se dit.
Non, mais avant, il n'y avait pas toute cette conscience. C'est vrai qu'il y avait un truc, moi j'étais, je te signe, si tu vomis, c'est ton problème, mais par contre, ce qui sort de ta bouche, tu le remanges.
Toi, tu disais ça?
Non, bon, on m'a dit ça, moi.
Ah bah oui, mais ça, c'est le Nord, c'est ce que je dis. Désolée.
Toi, ton saucisson de cheval. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais tout simplement, si l'enfant a un haut-le-cœur, on s'arrête.
On lui propose plus.
Alors, on ne lui propose pas forcément autre chose non plus, parce que ça va être un cercle vicieux, forcément. Si l'enfant sait qu'en faisant un petit peu ce, entre guillemets, cinéma, on va dire, en tout cas, quand il commence à montrer des signes de haut le cœur, c'est pas peut-être, mais si on l'habitue à lui donner autre chose, forcément, bah, il va rentrer dans le jeu et il va continuer.
Il va voir en fait qu'il y a une action. Il va voir qu'il y a une action sur ce qu'il fait. Et on le retrouve aussi dans le développement psychoaffectif avec le stade anal, dans le sens où l'enfant va faire de l'ancroprésie, par exemple, où il va retenir d'aller à la selle, parce qu'en fait, la mère ou le père ou le parent de substitution va être tellement content. On s'envoie même des photos où on dit à la crèche, on va le chercher. Alors, est-ce qu'il a bien été aux toilettes aujourd'hui? Ça prend vraiment toute son importance. Et du coup, il se dit, tiens, si c'est autant important, ça va être bien parce que du coup, je vais pouvoir jouer avec pour avoir ce que je veux.
Exactement.
Donc, ça, c'est très intéressant.
C'est dur, un équilibre à trouver. Enfin, quand on est parent, il n'y a pas de notice. Ouais. C'est bien d'avoir.
Non, mais en fait, le but, c'est de rester, comme on dit, un poker face. Voilà, c'est OK, je t'ai compris. Et ce qui est même génial, en fait, ce qu'il faudrait même faire dans l'idéal, c'est avant 3 ans, avant de rentrer dans les règles du l'entrée, plat, dessert, etc., c'est tout amené à table en proportion plus ou moins correcte pour un enfant. Ça, on peut le voir. Qu'est-ce qu'une proportion correcte? C'est un peu difficile. C'est là de l'exprimer maintenant, mais c'est vraiment de se dire, ben voilà, on amène tout à table, mange ce que tu veux, comme tu veux, dans l'ordre que tu veux, c'est ça, et il n'y a rien d'autre.
La DME, c'est ça, la diversification menée par l'enfant, tu mets tout devant lui.
Oui.
Et puis, il se sert.
Et on peut faire avec tout.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Sabrina. C'était très intéressant. Sabrina Lerche, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes du coin, vous, en plus?
Tout à fait.
Eh bien, voilà, vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Très, très bien dit, très bien expliqué. Merci, Caroline de Rumini.
Avec plaisir.
On va se retrouver la semaine prochaine. Et cette émission, si vous voulez la réécouter, sera en studio. Si vous voulez la réécouter, eh bien, vous êtes complètement perturbé. Hein,
ce que j'ai dit. Mais je sais, c'est parce que j'aime bien te couper la parole.
Tout visualiser. Donc, à partir de 18h dimanche, l'émission est disponible en replay. Merci, mesdames. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Donc, à la semaine prochaine, Caroline.
Au revoir, Fabrice.
Au revoir, merci.
Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.